Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique avec ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites-leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast! Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, c'est une invitée, elle s'appelle Valérie Jacob, elle est associée chez ADN Organisation et artiste aussi. On va saluer mes co-animateurs.
Salut Matt!
Pierre-Marc Langevin!
Yeah!
Benoît Saint-Pierre, étoile des Stars de Dallas.
Okay, les Stars.
Ça, c'est en 2002.
Ouais, il a connu Mike Modano.
Joué. Elle, il est gauche.
Modano, ouais, mais j'ai... Ouais, c'est lui qui m'a tout formé.
J'ai trouvé une... Parce que je l'ai su, j'ai trouvé une carte d'hockey.
Ouais. J'ai une carte recrue de 2001, je pense. J'ai joué juste un an.
Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a l'air. Mais c'est ça, la drogue, hein, je pense.
Non, c'est parce que je patinais avec une chaise qui m'a
arrêté. C'est ça, ah, ok. Ouais, c'est ça.
Mais... Fais mal les mises en échec quand le coup de patinoire avec une chaise.
Il était gelé sur la côte, mais ça, c'est pas grave dans la LNH. C'est plus la chaise.
Nice.
Valérie Jacob, on a eu un super belle, super beau moment avec elle. On n'a pas eu fait grand chose.
Non, on n'a pas travaillé bien, nous autres.
Okay, c'est un bon podcast. Elle nous a vraiment parlé de son parcours qui est quand
elle
même.
Elle nous a leadé ça.
Son parcours qui est extrêmement formateur. Juste de regarder le podcast, c'est comme une session de coaching d'une heure gratis là, pour, avec ADN. Fait que, faites un don à ADN. Donc, c'est vraiment porteur. Puis,
c'est vraiment
une belle expérience de vie. Je pense qu'elle s'est fait donner aussi par certaines personnes dans sa vie. Puis, elle redonne via son entreprise, mais via elle-même aussi. Donc, ouais. Ça a été vraiment intéressant. Mm-hmm. Un super beau parcours aussi d'artiste, de gestionnaire, super belle vision. On a parlé d'économie sociale, on a parlé de...
Chaud de la mode.
De
développement personnel. Ouais, on a parlé de développement personnel à travers aussi.
De son parcours aussi comme jeune à la mode aussi. C'est comment qu'elle s'est intégrée à la mode, qui au début c'était plus difficile, puis tout ça. Donc, vraiment très complet. Très fluide. Tu sais, des fois, on part de tous les sens. Là, c'est très clair, la ligne directrice quand même.
Ça y va, ça suit.
Puis c'est grâce à sa personnalité, donc merci beaucoup Valérie.
Yeah.
Bon podcast.
Appropriation culturelle.
C'est ça pour qu'on voit ton beau visage.
Ouais.
Oh. Il est bien têteux Ben aujourd'hui.
Tout le monde a des beaux visages. C'est parce que j'ai pris une bière, hein.
Flirty Ben is back!
J'ai pris une bière.
What the shout? Il est en train d'avoir une deuxième.
Ouais, c'est ça. Checkez bien ça.
Non, mais quand même, hein, c'est intimidant d'être avec une gang de gars de même.
Ouais, c'est ça. C'est-tu trop... Faudrait inviter une fille dans notre panel de trois animateurs, je pense. Hein?
Ce serait une très bonne idée.
Oui, hein, c'est ça. On est trop masculin. Masculiniste.
J'espère que pas.
Non?
Je pense pas qu'on est masculiniste.
Non? T'as pas cette impression-là de l'extérieur?
Non.
C'est intimidant, mais pas à ce niveau.
Non, c'est
parfait.
Ça.
Parfait. OK, parfait. Merci Valérie Jacob d'avoir accepté l'invitation à ce podcast.
C'est toi qui pose la question. Bon.
Ben, on est trois là, mais on va essayer de...
Ça apparaît quand ça apparaît, les questions.
Associé chez ADN Organisation.
Entre autres, oui.
Artiste à 16 heures?
Oui.
Chanteur, chanteuse?
Chanteuse, auteur, autrice.
Autrice. Et tu préfères-tu autrice ou auteur?
M'en fous.
Oui, c'est ça. On se comprend.
Auteur avec un E ou autrice, pour moi, ça se ressemble pas mal.
En effet.
Il y a des modes, hein, en fait, parce que quand j'ai commencé à écrire, les femmes, c'était des auteurs eux.
Oui, c'est ça, exact.
Mais avant, bien avant ça, c'était autrice.
Bien avant ça, c'était autrice.
Oui, c'est ça. C'est ça. Une façon de dire, ah, les femmes, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin d'écrire.
Exact.
Ouais, c'est ça. Puis même à une certaine époque, il y avait des... je n'ai pas les noms en tête, mais il y avait des auteurs, des autrices qui se faisaient passer pour des hommes parce que c'était pas bien
mais
vu.
J.K. Rowling, là. Mettons, oui, j'aime pas ses propos dans, là, récent, dans la vie, là, mais elle a fait ses initiales pour ça. Là.
Fait que puisqu'on est dans une approche de revendication, ben je pense que je vais me qualifier d'autrice.
Oui.
Ouais.
Bon, parfait ça.
Ben oui, ouais, ça sonne bien quand même, autrice.
C'est très beau.
Ben je trouve que ça sonne mieux qu'auteur.
Ça se différencie aussi d'auteur, c'est pas de...
Mais oui.
C'est un peu plus... La clarté, hein, c'est toujours bon.
Mais dans le domaine musical, on parle encore à moins que je me trompe, là, mais d'auteurs, compositeurs, interprètes. Mais je pense qu'on commence à entendre autrices, compositrices.
Ça commence, oui.
Interprètes.
Interprètes.
Ça, c'est un mot épiphène. On peut le garder.
Ouais, c'est ça.
OK.
Interprètes.
Ben non, mais j'essayais quelque chose. Ça n'a pas marché. C'est tout.
Non, ben, moi, je vais le garder dans ma petite poche. Dans ma petite poche, interprète.
Donc, tout ça pour dire que tu écris des chansons, c'est ça que.
Des chansons, des poèmes.
Okay.
Nouvelles.
Oui, okay.
J'ai même écrit un roman qui a été déposé dans un concours littéraire.
Mais non, mais là, attends, mais moi, ça, je ne sais pas ça.
Parce qu'il n'a pas été publié.
OK, ça, tu as gardé ça pour toi. Là.
Oui, c'est okay. Ça. Il n'a pas été publié, il n'a pas gagné non plus, mais tu sais, juste le fait de l'avoir fait, d'avoir eu les feedbacks des jurés après, par exemple,
oui.
Parce qu'il y a toujours un échange avec les jurés qui m'ont donné le goût de continuer, tu sais, mais la vie, ça se vit, la vie change. Les priorités changent. avoir des enfants, puis que, quand ils passent à l'étape d'adolescente, les priorités changent.
En même temps, des fois, certaines frustrations, ça donne du jus pour un autre roman, par exemple. T'sais.
Oui, mais des fois, les... Je vais même appeler ça traumas. Les traumas qui peuvent venir avec cette expérience de parent fait en sorte que, ben garde, on va juste vivre... autre chose pour l'instant. Peut-être qu'un jour, j'écrirai là-dessus, mais pour l'instant, c'est pas le chapitre.
Ce roman-là que tu avais écrit, c'était quel style? Ça avait-tu un style en particulier?
Ben, c'était un mix. C'est sûr que c'était de la fiction.
Ouais.
C'était basé aussi sur une relation amoureuse. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez...
C'était-tu un harlequin?
Non, c'est pas ça.
Okay.
Mais je ne sais pas si vous vous souvenez quelle année? En 94, il y a eu le 75e anniversaire de la municipalité de La Motte.
OK.
Moi, je viens de là.
Ben, moi, je m'en souviens pas, je dois avouer.
En 94, j'arrivais à Amos, moi.
Oui. Mais donc, cette année-là, on a fait à La Motte ce qu'on appelle le 75e anniversaire et on a ouvert la boîte à mal du temps.
Oui, OK.
Alors, les personnes de La Motte, ou même les visiteurs, étaient invités à déposer une lettre pour un être cher... qui serait remis au 100e anniversaire.
Mm-hmm.
Fait qu'au 100e anniversaire, en 2019, il y a bel et bien eu l'ouverture de la boîte à mal du temps. Mon roman, que j'ai écrit en 2000-2001, se passe en 2019 à l'ouverture de la boîte à mal du temps.
Ah oui, OK.
À cette époque, donc, il y a une protagoniste qui avait mis des lettres d'amour dans la boîte à mal du temps. Puis, dans le fond, ça commence qu'elle reçoit, c'est comme si on lui remet ses lettres parce que la personne à qui elle a écrit est introuvable.
Mmh.
Mais donc, c'est toute l'histoire autour de cet amour-là qui a été vécu entre 90 et 94, mettons, avec un dépôt, parce que ça s'est fini avant. Le 75e, fait qu'avec un dépôt dans la boîte à mal du temps de ce qui s'est passé.
Intéressant.
Fait que voilà, c'est ça l'histoire. C'est resté... tu sais, j'ai eu de très bons commentaires des lecteurs, des quelques... mettons une dizaine de lecteurs. Ouais,
mais ceux qui ont partagé aussi les juges, c'est ça que tu
avec disais? Les juges, mais avec des amis aussi, tu sais, qui ont lu le roman. Puis à un moment donné, je me suis même demandé, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le publie? Puis en fin de compte... La réflexion a été, bon, est-ce que j'ai envie... Admettons que je publie un livre, là. J'ai-tu envie que ce soit celui-là? Puis la réponse était non.
Okay.
C'est autre chose que j'ai à dire. Fait que quand je publierai mon livre, parce que ça va arriver, ça sera sur un autre thème.
Okay. Toi, t'avais vécu l'événement de 94, puis ça t'avait inspiré, ça t'avait touché, j'imagine. Fait que ça t'a créé quelque chose dans la tête. J'ai le goût de savoir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, en 2019.
Exactement.
T'as créé une situation.
Voilà. J'ai bel et bien reçu des lettres au centième, puis c'est vraiment très touchant. En fait, j'ai reçu des lettres de ma mère qui est décédée entre-temps.
Oh.
Et ça, c'est sans prix, là. C'est extraordinaire. Ouais, ouais. C'est le plus beau cadeau, finalement, que je pouvais recevoir. C'est vraiment...
Ouais, je veux te voir parce que j'ai trouvé dans le sous-sol de la cathédrale un coffre similaire qui va être ouvert en 2039, je pense.
OK.
Oui, parce qu'ils ont fait effectivement quelque chose de semblable
c'était
quelques années plus tard.
39, c'est quand on est devenu cathédrale, fait que ça devait être pour ça.
C'est pour le centième de la
du diocèse. Du diocèse, oui, c'est ça.
des capsules temporelles, pas ça, des capsules temporelles. Là.
Ouais.
Fait que le concept existait avant que la motte le fasse. Là. Ça, mm-hmm. Je veux dire, on a été inspiré en quelque part, puis ça s'est refait ensuite.
Au centième de la motte, il y a quelque chose, il y a des voûtes aussi qui ont été faites, je pense. Il y a des trucs qui ont été scellés. Je suis pas sûr.
Je ne saurais dire.
Moi non plus, mais centième de la motte, je me souviens du chaud de la bottine.
Okay.
Puis le chaud un peu louche de la rivière. Pour ça.
Moi, je me souviens que c'était vraiment tough d'avoir du financement pour l'Alibaba. Parce que tout l'argent était notre
temps. C'était tough du financement pour tous les
restaurants. Oui, c'est ça.
Donc, les arts, c'est arrivé tôt dans ton parcours d'humaine?
C'est la chose qui est arrivée le plus tôt.
OK.
Tu sais, moi, dans le fond, quand j'étais petite, mettons que j'essaie de me rappeler à quoi je jouais, mais je jouais à inventer des histoires.
Mm-hmm.
À écrire des poèmes, écrire des chansons, faire des spectacles dans le sous-sol. J'invitais le les voisins. Puis j'ai été chanceuse parce que le voisin à côté, c'était un musicien, puis il me permettait d'aller chanter dans sa salle de musique, de jouer avec le drum, de jouer avec la guitare, d'où il m'ouvrait le micro, je pouvais chanter dans le micro. Puis il était assez fin même pour... participer à mes spectacles de sous-sol. Fait qu'à un moment donné, il avait même démonté son drum, remonté son drum dans le sous-sol pour mon spectacle de 15 minutes. Ça fait beaucoup d'amour.
C'est le meilleur gig à vie.
Fait que, tu sais, c'est comme... Puis moi, ben c'est ça, je préparais les sandwichs. Ça coûtait 25 cents pour rentrer.
Déjà le parcours entrepreneur, là, quand même. Là.
Ben quand même, il faut bien payer les œufs. Les œufs.
Ben c'est ça, le moment donné, on ne fait pas ça pour les beaux yeux de tout le monde. Là. Ben, à la Motte, c'est un village très, très artistique. Donc
oui, mais je n'étais pas à la Motte. Hein.
Non, à ce moment-là, non.
Moi, je suis née à Rouen, puis j'ai vécu ma petite enfance à Rouen. Je suis arrivée à Amos, ville, quand j'avais 9 ans. Et bon, là, c'est une longue histoire, mais ce qui a amené à la Motte, c'est mes parents étaient séparés. Ma mère, elle a rencontré sa meilleure amie, Margot Lemire. Mmh. Donc, deux mères célibataires, si on peut dire, avec monoparentale, parce que les pères dans ce temps étaient peu présents.
Mmh. Ouais.
Et donc, elles ont décidé de s'entraider, donc de prendre une maison ensemble avec les enfants pour diminuer les coûts. Ça, c'était à Amos. Puis là, entre-temps, ma mère, elle a rencontré un gars qui est devenu son chum. Puis, de façon anecdotique, ce gars-là, c'était l'ex-mari de Margot.
Ça
s'est bien placé. Oui,
oui.
OK. Circonstance.
Dans une vie antérieure, alors qu'ils étaient ensemble, Margot et son ex-mari avaient été propriétaires de différents terrains à la Motte parce qu'ils voulaient justement... Ils avaient décidé d'acheter des terrains, de construire des maisons puis de les revendre. Mais entre-temps, la relation s'est terminée. Fait qu'ils sont restés avec des terrains. Puis là, on est en 1981.
Pleine révolution tranquille.
C'était une récession économique.
Okay.
Les taux d'intérêt pour les emprunts hypothécaires étaient entre 17 et 23 %.
Mm-hmm.
Mais ils avaient décidé de se construire une maison. Puis la place la plus logique, c'était à la Motte, puisqu'ils avaient déjà un terrain puis une slab de béton de fête. Fait que pourquoi pas partir de là, tu sais?
Ouais, c'est ça.
Et de construire, dans le fond, une maison duplex. Habiter d'un côté avec Margot et les enfants, de l'autre côté avec ma mère, le nouveau chum, père des enfants, et ses enfants à elle, donc nous autres. Fait que c'était un duplex où est-ce qu'on pouvait se promener de maison en maison. Donc, Margot est un peu... C'est ma deuxième mère, là.
Oui, c'est ça, t'as grandi avec, finalement. Là.
Fait que, donc, c'était ça qui a bercé, je dirais, la fin de mon enfance, parce que 10 ans, je suis préado, adolescence. Et honnêtement, mon passage à la Motte, pour moi, c'était plutôt haine qu'amour.
Éloignement de la ville, j'imagine.
Éloignement de la ville.
Puis tu viens de Rouen, fait que je peux comprendre.
Fait que là, ça, c'était difficile. Je rentre dans un petit milieu. Quand t'es après ado, rentrer dans un petit milieu, c'est pas facile non plus de se faire des nouveaux amis.
Tout le monde qui se connaît depuis 20 ans.
Oui, les nouveaux amis, ça va bien, mais c'est de rester amis, d'être accepté à long terme et tout ça.
On n'a pas de réseaux sociaux à ce moment-là. Internet n'est pas là non plus.
C'est ça.
Très peu, en tout cas.
Fait que moi, j'avais décidé de repartir pour Rouen là, quand j'ai eu 13 ans, là, fin de mon secondaire 1. Là, j'en avais pas mal.
Ah oui?
Ouais, j'étais tannée, j'ai décidé que je m'en retournais à Rouen.
Oui.
Fait que c'était mon dernier été à la Motte. Puis là, j'ai rencontré un gars de la Motte qui est devenu mon chum.
Ah ben.
Puis qui est devenu le père de mes enfants. Fait que c'est sûr que ça, ça a forcé un peu, je dirais, le, l'intégration.
Tout t'a toujours ramené à la motte.
Tout, c'est ça.
La, c'est ça, la vie la ramenait toujours à la motte.
Puis ce qui est bien étrange...
Le bateau de la motte, là, c'est ça qui ramenait tout le monde. Là.
Le beau cowboy de la motte qui t'a...
Bon, cowboy peut-être pas, mais bon. Beau...
C'est pas des cowboys à la motte,
c'est clair.
Quel style, hein?
c'est clair.
C'est plus des artistes...
Ben,
des
non,
gens du terroir.
Ben, c'est, oui, c'est ça, il y a un mix. C'est un gars bien normal. Okay. En fait, moi, ce qui m'avait attiré chez ce gars-là, c'était que j'étais vieille jeune.
Okay.
Parce que ma mère, elle travaillait beaucoup, puis elle a eu une période très difficile qu'elle n'était plus présente, puis il fallait qu'on soit très autonome tôt. Mm. Fait que je m'occupais de moi puis de ma sœur, de les lunchs, etc. Ouais, ouais. C'est moi qui avais en charge pas mal ça. Puis, tu sais, j'étais comme vieille dans ma tête de bonheur. Mais je trouvais que les gars de mon âge, j'étais premièrement ben trop jeune, là.
Non, oui. Ouais, je comprends.
Fait que le gars en question, un, il était plus vieux, mais surtout, je trouvais que c'était un gars qui était travaillant. Tu sais, c'était un gars qui s'impliquait dans le milieu. Tu sais, il s'occupait, entre autres, du terrain de baseball, de tout le centre de loisirs, puis il était habile de ses mains, faisait tout, tu sais, fait que il était comme le leader d'un groupe qui faisait en sorte que les jeunes s'impliquaient à la motte, là, tu sais.
C'est pas un de mes oncles, ça, j'espère. C'est mon père, ben ma famille vient de la motte.
C'est pas un Saint-Pierre.
Ah, OK, bon.
je te donne un indice, il a le même nom de famille que moi.
C'est un langevin.
Mais j'ai pas de parenté avec Mario.
Écoute, ça, on pourrait trouver éventuellement,
ouais.
Mais...
Peut-être, ouais.
Éloigné, là, mais ouais.
C'est peut-être loin, mais ouais.
C'est qu'on, des fois, on ne sait pas tout l'enchevêtrement de nos familles. Mais bref, donc, je suis tombée en amour avec ce gars-là. Disons que ça a fait en sorte que ça m'a tenue, là, tu sais.
Ouais.
Je suis partie quand même pour Rouen quand je suis allée au cégep. Okay. Donc, je suis restée dans un parage, mais j'allais à l'école à Rouen, puis je revenais les fins de semaine. Puis on s'est installé quand même assez tôt. Lui, il s'était acheté un chalet au lac Figuerie, à Saint-Mathieu. Fait que quand je revenais les fins de semaine, je m'en allais là. Je m'en allais plus chez ma mère, là, à un moment donné. Puis dans le fond, c'est venu un petit peu plus tard, quand j'ai eu fini mes études. Tu sais, pendant toutes mes études, moi, je comprenais pas les jeunes qui s'en allaient étudier à l'extérieur. Pour moi, c'était comme une perte, une perte d'intelligence. Surtout qu'on... Là, ben, je comprenais quand même que, oui, pour certains domaines d'études, il faut aller à l'extérieur.
Être médecin, là, être avocat,
c'est
des trucs comme ça.
Mais que quand c'était possible de le faire, pourquoi ne pas rester en région? Puis surtout, pourquoi ne pas revenir? T'sais, fait que même si tu vas à l'extérieur pour étudier, ben reviens. Fait que j'avais déjà une préoccupation de développement local, développement du territoire, de garder nos potentiels ici.
L'UQAT existait à ce moment-là?
L'UQAT existait, bien sûr. Puis vous allez voir que pour moi, le potentiel humain, notre façon de s'impliquer dans notre communauté, mais dans notre vie, ça revient tout le temps dans mon parcours. Mais bref, j'étais comme une passionnée de développement local, puis je cherchais une manière de m'impliquer, tu sais. Puis d'ailleurs, la première job que j'ai eue en sortant des études, là, c'est de travailler à ce qui s'appelait à ce moment-là l'Office de tourisme Octar, là. L'Office de tourisme, en tout cas.
OK. Qui est l'ATR maintenant, dans le fond. Là.
Non, qui même est pas, plutôt à Moss-Aricana.
OK.
Mettons.
Local, OK.
Donc, mais c'était lié à la Société de développement Aricana. Puis, dans le fond, la mission de la SDH, pour moi, me touchait vraiment parce que c'était une mission de développement des communautés, de s'impliquer dans notre milieu, de contribuer, tu sais, avant de travailler, c'était d'avoir une occupation qui a du sens. Puis ça me touchait. Mmh. Fait que dans les premières années de ce qu'on a appelé le projet de société, là, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté, qui m'a beaucoup inspiré.
Mmh. C'est
Et
quoi, ça?
Le projet de société Arcana?
Ouais.
Ben, intéressant, c'est vrai que vous êtes jeunes, vous
autres. Ah ouais, ouais.
Ben, c'est une mobilisation qu'il y a eu sur le territoire de la MRC d'Abitibi, qui était portée par la Société de développement Arcana, et où on voulait se doter d'une vision pour le développement de notre territoire et que chaque personne, mais chaque organisme contribue à cette grande vision-là. Fait que c'était de mettre en place, en fin de compte, un sens à notre action collective, un sens au vivre ici, un sens à comment est-ce qu'on peut se développer puis rester chez nous heureux occupé et heureux toute son existence. C'était le slogan de cette démarche-là. Vivre ici, ensemble, occupé et heureux toute son existence.
Ça demande que tout le monde s'y implique, fasse sa part, puis avec ce qu'il a le goût de faire aussi.
C'est ça, s'engage. Puis c'est sûr qu'il y avait cette démarche-là, dans ses beaux côtés, c'était une démarche qui mobilisait plusieurs organisations sur le territoire. Dans ses moins bons côtés, c'était la difficulté de coordonner puis de donner un sens à long terme. Parce qu'évidemment, quand on travaille avec bien des organisations, chaque organisation se veut autonome et parfois refuse, entre guillemets, d'abdiquer un peu de son autonomie pour être dans un véritable partenariat. Parce que c'est ça le partenariat. Autres, hein? Il faut mettre un peu de l'eau dans son vin pour marcher avec.
Oui, oui, oui.
Donc, cette démarche-là, moi, j'étais une jeune femme, là, j'avais 21 ans à peu près, m'a énormément touchée. Je parlais de ça avec ma mère et avec Margot, avec mes mères, en fin de compte. Puis, tu sais, Margot était déjà très active dans le développement communautaire. Donc, une grande artiste, mais aussi une grande travailleuse de communauté.
OK.
Fait que elle a beaucoup contribué à éclairer cette partie de moi-là. Fait que, donc, quand j'ai parlé de ce besoin, tu sais, ma mère aussi, là, avec son bagage, c'est une enseignante au départ, mais qui a travaillé toute sa vie en appui aux personnes plus vulnérables dans un bureau de sécurité du revenu. Là, elle travaillait là. Mais donc, de m'amener toute la partie vivre ensemble, développement de la communauté. Fait qu'on a commencé à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire à l'échelle locale. Et c'est là qu'est venue l'idée de faire un comité de développement à la Motte. Et là, il y avait aussi Paul Ouellette et Jocelyne Wellers qui étaient quand même proches de nous. Puis, dans le fond, Margot a eu l'idée de... On pourrait inviter ces personnes-là puis voir comment est-ce qu'on peut créer un nouveau comité de développement de la Motte. Ça a été notre premier... Mon premier retour à la Motte.
Okay.
Le premier retour de cœur que j'ai fait à la Motte.
Parce que tu n'y habitais plus à ce moment-là.
J'y habitais plus.
Tu y étais parce que ta mère
était encore là. À Saint-Mathieu. J'y allais parce que ma mère était là et sa mère à lui aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, je suis arrivée là à 10 ans. Quelque part, je commençais à avoir un petit peu de racines. Lui, il était là depuis tout le temps. Moi, j'avais déjà mon premier enfant. 91, pas encore, mais ça s'en venait,
c'était
mettons.
Proche.
C'était proche. Donc, j'avais comme le goût d'investir autrement. Fait que le premier comité de développement local, en fait, il y en avait eu une première mouture qui était tombée. Fait qu'on dit, bon, on redonne vie à ce comité-là. Fait qu'on part avec ça. Puis notre premier mandat, ça a été de faire une étude du potentiel humain avec les gens de la Motte. Parce que, dans le fond, pour développer son territoire, il faut être capable de se développer soi. Là, aujourd'hui, je suis capable de vous dire ça, mais dans ce temps-là, je
t'avais pas fait le même cheminement.
Non, je suivais un peu le train, là. Je suivais Margot qui m'inspirait puis qui me guidait là-dedans, tu sais. Mais donc, c'était de trouver pour chaque personne, c'est quoi qui te meut? C'est quoi qui te fait avancer? C'est quoi qui te donne du plaisir? C'est quoi qui te donne de la joie? Puis dans les questions aussi qu'on posait, c'est quoi, dans quoi est-ce que tu te trouves doué? Puis dans quoi est-ce que tu te trouves surdoué? Puis au début, les gens disaient, moi, je suis pas surdoué dans rien, là. Je suis à peine doué dans quelque chose. Parce qu'on est tellement... On apprend tellement à être humble puis pas péter plus haut que le trou que... On le dit pas, tu sais, dans quoi qu'on est bon.
On fait nos petites affaires, puis c'est correct.
T'sais. C'est ça.
Les Québécois, on est bon pour ça.
Puis des fois, même on le fait plus, parce que la vie nous amène à travailler pour une job, là, dans complètement d'autres choses, puis il faut gagner notre pain. Fait que ce qui nous donne vraiment de la joie, ou ce pour quoi on est doué, ça dans quoi on est bon, on le fait même plus, ou on va le faire les fins de semaine, peut-être, en gossant sur un truc de bois parce qu'on est habile à faire ça, ou en écrivant des chansons.
Ou en disant des niaiseries sur un sign.
Voilà.
Sur une scène.
C'est ça.
En faisant des podcasts dans mon sol.
Aussi.
Puis, tu sais, ça n'enlève pas l'obligation de, de gagner son pain. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas 100% dans ce qu'on est doué ou surdoué. T'sais, la vie, c'est un échange. L'important, c'est que si on nie trop longtemps qui qu'on est, puis ce qui nous meut, ça fait des boutons, on va dire ça de même.
C'était ça qui se passe au secondaire, quand on est
Mais donc, ce chemin-là, ce bout-là, au comité de développement de la mode, en fin de compte, on essayait de trouver comment est-ce qu'on pourrait vivifier un petit peu la communauté. Puis ça a commencé par comment être davantage fier de qui on est personnellement, puis de qui on est comme collectivité. Et pendant ce chemin-là, bien, je pense qu'il y a la municipalité qui nous observait un peu, puis qui voyait que les gens en parlaient, puis avec quelque chose de positif, tu sais. Puis là, la municipalité nous a approchés pour l'idée l'organisation du 75e de la motte.
Okay.
Puis donc, c'est là qu'on a dit, bien, OK, d'abord, on va faire ça. Fait qu'on a donc mené sur 2 années, parce que là, il y a quelqu'un qui nous avait dit que c'était supposé d'être en 93. Puis
il est de patente, t'as pas clair?
Oui, c'est ça, on fouille un peu, puis finalement, non, c'est 94. Fait qu'en fin de compte, on a fait beaucoup de travail. Deux années de festivités, puis la deuxième année avec les grandes retrouvailles. Fait que là, on a invité plein de monde de partout. On avait aussi fait le traditionnel livre d'histoire de la motte, mais sous un angle complètement différent. Fait que ça s'appelait les histoires au pluriel de la motte. Et là, c'était un livre qui regroupait, oui, bien sûr, des histoires, donc des anecdotes, mais les légendes de notre milieu. On est allé avec le côté humain de cette histoire-là. Puis on a aussi amené la partie contemporaine avec des jeunes qui ont écrit des textes. Donc, les jeunes du primaire, par exemple, qu'est-ce qu'ils avaient à dire aujourd'hui sur leur lamotte d'aujourd'hui? Des recettes, autant des vieilles recettes que des nouvelles recettes. Bref, ça a été comme un super melting pot, puis un petit livre. Puis bien sûr, je suis sûre que vous en avez entendu parler, le lancement de la chanson trop longue.
La chanson trop longue, c'est ça, Paul Ouellet. qui est chantée encore à tous les shows de la motte.
À tous les shows de la motte. Mais je m'en viens justement avec comment est arrivé le show de la motte, parce que je suis une des fondatrices de ce show-là. C'est que un 75e, des festivités de cette ampleur-là, ça prend beaucoup de sous. Puis nous autres, pour financer ça, c'était nos fameux livres d'histoire qu'on n'a pas tous vendus.
Il n'y avait pas Amine Sayona dans ce temps-là. Là.
Mais non. Fait qu'à la fin du projet, ben, on avait un manque à gagner. Moi, j'ai appris à ce moment-là que ça ne s'appelait pas une perte, ça ne s'appelait pas un trou. Non, ça s'appelle un manque à gagner. Nous avions des actifs que nous n'avions pas tous vendus. Mais bref, il manquait d'argent dans le compte de banque. Et on se sentait un peu responsable de ça, même si c'était la municipalité qui nous avait demandé de faire ça, tu sais. Fait qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider à remplir le trou, dans le fond? Fait que mais toute une gang d'artistes, là, finalement, dans ce comité-là, si on comprend bien. Fait que qu'est-ce que des artistes peuvent faire? Bien, c'est faire un show. Fait que ça a été le premier show de la motte en 1995, 18 février 1995. Ça s'appelait « Asseoir encore l'hiver en deux ». C'était notre premier spectacle qui devait en avoir un. Il devait en avoir juste un.
Puis on est rendu.
ils ont fêté la 25e édition du show au printemps passé. Mais
c'est donc, je connais ce genre depuis il y a 7 ans, je pense.
Ça fait 25 ans. Ouais, moi, ça a pris du temps. Quand je suis revenu du cégep, justement, ça a pris du temps. Que j'ai parti. Ben, pas j'ai parti, mais je suis allé pouvoir assister. Puis, c'est ça, j'étais content de le voir. C'est vrai que c'est un happening. Là. C'est un des rendez-vous culturel du territoire émercéen qui est
oui, et d'ailleurs, on a ce show-là a servi de modèle à plusieurs autres shows.
Rapide danseur, entre autres, je pense.
Rapide danseur, en tout cas, plein de municipalités, puis je dirais même dans la belle grande ville de Rouen, on s'est beaucoup inspiré de ce show-là pour d'autres initiatives qui vivent ou pas encore, là, tu sais. Mais dans mon parcours, ce spectacle-là, ça a été quand même une reconnexion avec le chant, parce que j'avais arrêté de chanter, moi, d'ailleurs, même avant, j'ai comme un parcours, c'est comme si, pour ma mère, le chant, c'était un loisir. C'était pas une opportunité de carrière. Puis aujourd'hui, avec le recul, je peux comprendre ses peurs liées au domaine artistique. Puis pour elle, être chanteuse, c'était c'était évoluer dans un milieu non sain.
L'alcool, la drogue.
Puis les abus.
Les hommes qui les abusent.
Puis donc.
Ah oui, ben, puis je pense que même aujourd'hui encore, s'il y a un ou une jeune qui veut aller dans un domaine artistique, je pense que les parents vont faire « T'es sûr que tu veux faire ça? »
C'est encore présent. Peut-être avec la nouvelle génération, peut-être un peu moins.
Peut-être.
Mais forcément que oui, c'est...
Puis il y a encore beaucoup de préjugés envers les arts comme vocation ou comme orientation professionnelle.
Mm-hmm, mm-hmm.
Les arts, c'est quelque chose que tu fais...
Quand tu as le temps,
puis c'est comme considéré comme un luxe.
Ouais.
Puis je pense que ça vient aussi des époques de misère, parce qu'il y a des temps au Québec, puis ici en Abitibi-Témiscamingue, où tu n'avais pas le temps de faire de l'art, là. Il fallait que tu bûches tes murs.
Ouais.
C'est pas plus compliqué que ça.
Que tu fasses les chemins, que tu fasses les maisons, que tu bâtisses ta ferme.
Que tu coupes les arbres pour faire ta maison. Ouais. T'as rien, t'as juste une forêt. Ça, c'est ton carré, coupe.
Si tu veux ta maison, tu pognes ça.
Ah, bonne idée.
Voilà. Puis, tu sais, ma tante, tu sais, moi, j'ai pas connu mes grands-parents maternels. Ma mère a pas connu sa mère. Elle est décédée quand elle-même avait un an.
OK.
Mais ma tante, qui est un petit peu plus âgée, me raconte parfois de ses souvenirs, puis me parle de ma grand-mère Rachel, qui était une artiste. D'ailleurs, mon grand-père et ma grand-mère étaient des musiciens. Tout le monde dans cette famille-là, c'est des musiciens. Mais ma grand-mère, elle aimait ce qui était beau. Elle peignait sa maison rustique avec des belles petites fleurs, mettait des petites dentelles. T'sais, elle faisait tout pour que ce soit beau. Il paraît qu'elle était une peintre, qu'elle aimait tout ce qui était beau et artistique. Mon grand-père, c'était un violoniste, c'était un menuisier aussi. Fait que dans la famille, il y a ce côté artistique-là qui percole, veut pas, là, dans les enfants et les petits-enfants, tu sais. Mais je m'en allais avec Miski, c'était quoi, non?
On vient de descendre une bonne pente. On parlait de ta grand-mère parce qu'on parlait de l'époque, de ton attachement, puis de ta valeur du chant, que c'était pas quelque chose qui était mis de l'avant.
Ouais. Mais c'est ça. Donc, effectivement, donc ma mère, pour elle, chanter ou écrire ou whatever, c'était pas une solution pour moi. Puis, tu sais, elle voyait pas pourquoi je ferais pas des études plus poussées vu que j'en avais la capacité, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a été aussi un bout plus difficile à l'adolescence où j'ai fini par accepter de faire des sciences fortes. Alors que moi, ce que je voulais faire, c'était du théâtre, puis chanter, puis de la photo, là, tu sais. Mais vu que je savais pas exactement quoi faire dans la vie, puis que j'étais capable de faire des sciences, ben j'ai fait des sciences.
Mm-hmm.
Mais pour vomir, là, parce que...
T'aimais pas ça pendant tout?
Ben non, j'ai pas aimé ça. Puis c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'aimer quand même ce qui est la science.
Mm-hmm.
Mais,
en vieillissant, ça change, c'est clair. Là, mais...
Ça change. Mais est-ce que je serais devenue biologiste ou médecin ou autre chose? Non, là, tu sais, c'était pas ça qui était l'énergie qui circulait en moi. Là. C'était pas de la science, maintenant. Mais il a fallu donc que je me réapproprie ça. Fait que, oui, à l'adolescence, j'ai fait des concours de chant, mettons. Okay. Tu sais, les ce qu'on appelle aujourd'hui secondaire en spectacle, là, ça s'appelait...
Le concours amateur.
Le concours amateur, c'est ça.
Mm-hmm.
Donc, oui, puis après ça, au cégep aussi, des concours. Puis là, j'ai arrêté avec les enfants, mais c'était jamais bien loin. Mais quand on a démarré le show de la motte, ben c'était... Moi aussi, je voulais chanter là.
Oh, ouais.
Je serais pas juste trésorière de l'organe du spectacle.
C'est pas vrai qu'on va faire un show, vous allez me mettre en arrière.
Non, c'est
ça. Je serais pas à porte, là.
Je vais pas être la biologiste du show, là.
Fait que j'étais enceinte de ma deuxième fille de 7 mois. D'ailleurs, la veille, j'avais été hospitalisée parce que j'avais eu des contractions précoces, puis sinusite. En tout cas, oh, bref,
c'était... C'est bien rassurant avec une première.
Oui, c'est ça. Puis j'avais un rôle quand même qui était important dans toute la logistique, tu sais, mais tout était prêt, fait que Jocelyne, qui est membre du comité, est venue me retrouver à l'hôpital, elle a pogné ma sacoche, ils se sont organisés avec le show. Mais le lendemain, moi, c'était sûr que j'étais sur le stage, il n'y avait rien pour m'empêcher d'être là, puis j'étais là, tu sais.
J'aime que pour s'organiser du show, ça prenait ta sacoche.
Ça prenait ma sacoche.
Si tu avais ta sacoche, t'es correct, il y avait tout ce qu'il fallait là-dedans. C'est
ça. Dans ce temps-là, on,
pas le pince.
On était encore papier, ouais, carnet, crayon.
Ouais, okay, ouais, ouais, ouais.
Que très peu de choses.
C'était pas dans le nuage.
C'était pas dans le nuage. Fait que ça prenait mon sac avec ma feuille de notes puis okay. La liste de voici tous les aspects logistiques, mais oh, tout était ça. Prêt.
Ça aussi, à organiser des événements. Tu sais, on
la petite fait une caisse coupe, était là, mais... dans ma valise de char, prête pour le lendemain. Tu sais, que, mais ça prenait quelqu'un pour venir la chercher à l'hôpital.
Ouais, toute logistique, c'est fou quand même. Là, la... ouais. De faire quelque chose sans moyen de communication était le téléphone. Il n'y avait pas d'autre chose.
J'avais pas de cellulaire dans ce temps-là. Là.
Non, c'est ça.
Aller chez les gens.
Ouais.
En gros, cellulaire Radio Shack dans l'auto. Hein.
Mais c'est quand même drôle, ça. Parce que des fois, on se pose la question, tu sais. Ah, tu sais, mettons, je dirais chez Pierre-Marc, je l'appelle-tu d'avance pour savoir si je peux aller chez eux?
Ouais, c'est ça, là, c'est...
Puis moi, j'ai tout le temps de réflexe, mais non, je vais aller chez eux. S'il n'est pas là, il n'est pas là. S'il n'est pas disponible, il va me le dire, puis je retournerai chez nous, tu sais. Ça sera ça, là. On peut-tu vivre comme on vivait avant?
Ben, aller cogner aux portes.
Ben ouais.
Mais c'est drôle, hein, parce que tu parles de ça, puis il y a une espèce de petit malaise qui vient du fait d'arriver
chez
comme,
quelqu'un,
chez quelqu'un ouais, sans s'annoncer.
Sans s'annoncer.
Alors que la communication est tellement simple, on n'a plus d'excuses. Là. Je peux te texter avant pour savoir si t'es là.
Ouais, non, t'sais. C'est ça. Mm-hmm.
Quand ça cogne à la porte, je pogne un 2 minutes à cette heure. Et, puis oh, c'est ouais, souvent c'est du monde qui vend du chocolat de ce temps-là. Là.
Okay.
Mais tu sais, c'est juste comme, voyons, c'est qui ce calice? Comment c'est que quelqu'un touche à ma porte?
Ben, on a vécu comme l'étape où on a eu une adresse courriel. Quand on recevait un courriel, on faisait « Hey, j'ai reçu un courriel, ouais, yes! Ouais, » ouais. Puis après ça, on recevait tellement de courriels que quand on reçoit une lettre, on fait « Hey, j'ai reçu une lettre, yes! » On est revenu à l'époque.
Et des... manuscrit! Manuscrit! Ah, c'est quelqu'un qui veut me parler de la religion.
Ouais, <c'est ça. rire> As-tu entendu parler de Jéhovah?
Ouais, c'est ça.
Mais... Je poursuis, si vous voulez.
Ben oui, absolument.
Ça me fait penser que pendant que je m'impliquais bénévolement dans le show de la motte, tu sais, en 91, quand je suis sortie de ma formation technique en administration marketing, parce que c'est ça que j'ai fait.
Au cégep?
Au cégep de Rouen, il n'y avait pas de job beaucoup.
Ah non, OK, c'est ça.
Vraiment hein. Pas beaucoup.
Les années 90, c'était une période difficile. Là.
Pour se trouver une job, ben on... comptait sur ce qu'ils appelaient à ce moment-là des bons d'emploi. Fait que c'est des subventions salariales de quelques semaines, mettons, des fois jusqu'à 15, peut-être 20 semaines, si on était chanceux. Puis ça, c'est s'il y avait un employeur qui était prêt à prendre le risque pour nous payer au salaire minimum de 4,50. Peut-être, je ne sais plus exactement, mais c'était pas beaucoup. Donc, c'était pas évident de se trouver une job puis de commencer sa vie professionnelle. Tu sais, qu'on commence, on vient de finir des études... Puis là, c'est comme un non-sens. Fait que le bénévolat, pour moi, était très important pour me tenir, finalement, occupée et heureuse. Tu sais, c'était, c'est juste plus tard qu'il y a eu le slogan, là, puis le lien que j'ai fait avec l'importance de la contribution personnelle. Mais quand tu n'as pas de job, il faut que tu trouves un lieu pour ta contribution personnelle. Mm-hmm. Ça a été notamment à travers le comité de développement de la motte, le show de la motte, mais aussi, je suis devenue militante du mouvement de la relève dans notre région.
Okay.
Qui venait de se constituer peut-être l'année avant.
Qui est le MRAR, dans le fond.
Qui est le MRAR. Donc, moi, j'ai joint le MRAR en 92.
C'était la même mission qu'aujourd'hui?
C'était la même mission. Peut-être pas verbalisée de la même façon, mais avec vraiment une préoccupation de soutenir l'intégration sociale et professionnelle des jeunes parce qu'il fallait trouver des lieux d'insertion sociale et professionnelle pour les jeunes, vu qu'il n'y avait pas de job, là.
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes qui finalement, ben c'est ça, ils veulent soit partir ou en perte de sens. Puis qu'est-ce qui arrive à une personne, peu importe son âge, qui est en perte de sens? Ben c'est des problèmes de santé mentale. Là. Mm-hmm. C'est des dépressions, c'est l'isolement, c'est des mauvais comportements.
La consommation était très répandue dans les années 90 à Amos, si je ne me trompe pas.
Encore aujourd'hui.
Ça non, là-dessus, je ne suis pas capable de donner d'opinion. Là.
On repense à Amoswa, mettons. Il ouais, y avait plus de...
un petit peu plus tard, effectivement.
Ça a changé un petit peu, mais c'est encore là. C'est encore présent.
Fait que, donc, j'ai eu, moi, un premier contrat. Bénévole, MRAR, bénévole, comité de la motte. Première job, Octar. Donc, j'étais une agente d'information touristique, puis je m'intéresse, commençais à m'intéresser au développement de ma communauté. Et ce job-là m'amenait justement à côtoyer des conseillers aux entreprises, mais des agents de développement de MRC puis de territoire. Et vraiment, je suis tombée comme dans un espace de prédilection pour moi. Là. Ça fitait avec mes valeurs, ça fitait avec ce que j'avais envie de construire. Et on a, à travers le MRAR, construit différentes initiatives qui ont mené, entre autres, grâce à un mémoire que j'ai écrit, à la reconnaissance d'être un Carrefour Jeunesse-Emploi. Le seul Carrefour Jeunesse-Emploi géré par des jeunes, entièrement géré par des jeunes de 16-35 ans. Ça a été le seul au Québec.
Ah oui?
Puis pourquoi on est arrivé à faire ça, en fin de compte, c'est que nous, on existait à travers MRAR, mettons. On était déjà impliqués, les jeunes, à travers le MRAR. Mais il y avait aussi un grand mouvement qui se faisait à travers du Québec pour créer des espaces de soutien pour les jeunes. Puis le gouvernement avait dit, OK, on va mettre les Carrefours Jeunesse Emploi en place sous le modèle d'un qui existait dans l'Outaouais. Et, mais sauf qu'on dit, parfait, on vous donne du financement, mais vous devez faire une composition de conseil d'administration qui va être avec des gens du milieu, des gens du développement local, etc. Fait qu'il n'y avait même pas de job là-dedans, peut-être un ou deux. Nous autres, on a dit, nous autres, on est prêts, là. On a tout ce qu'il faut, notre structure est faite, on est impliqués, on est organisés, il nous manque juste le financement. On veut que notre organisation, le mouvement de la relève d'Amos Région, soit reconnu comme le Carrefour Jeunesse Emploi. Secteur Amos. Et ça a fonctionné.
C'est toi qui as démarré le MRAR, quand même.
Démarré le MRAR. Il était déjà en fonction. Je m'y suis impliquée, mais j'ai été de celles avec d'autres personnes qui ont réussi à obtenir cette reconnaissance comme Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai fait partie de la première équipe d'employés. Au départ, mon rôle était tout ce qui était développement d'employabilité, donc rencontrer des jeunes qui cherchaient un emploi et aussi soutien en ressources humaines auprès des employeurs. Avec tout le maillage employé-employeur, aider cette rencontre-là, puis que ça se passe bien dans le temps parce que à ce moment, comme il y avait beaucoup plus de chercheurs d'emploi que d'offreurs d'emploi, s'il y avait un employé qui ne se présentait pas, là, par exemple.
C'était ciao bye.
Fait que nous, on voulait. Notre mission, c'était de soutenir l'intégration sociale et professionnelle. Qu'on avait mis en place des rencontres de médiation employé-employeur pour favoriser une intégration à plus long terme. Puis faire en sorte que ce n'est pas après un premier écart que tu faisais de ciao bye, mettons.
Non, c'est ça. La star, c'est ça. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on est rendu à 76 écarts. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est pointé une fois cette année. Yes!
Un bon taux.
Fait que ça a été ma première job de vie, qu'on va dire. La première job sérieuse. Là, j'avais eu des contrats ici et là. Puis, donc, j'ai accédé à cet emploi-là, qui m'a amené un an et demi plus tard à prendre la direction générale de l'organisation. Donc, à 26 ans.
À 26 ans, tu étais DG du MRAR.
À 26 ans, j'étais DG du MRAR. J'étais la plus jeune DG de tout le réseau. C'était une grande fierté pour moi. C'est un grand. Puis à ce moment-là, je ne trouvais pas que c'était un si grand défi. J'avais une pensée de management, une pensée de leadership.
Quand on suit le développement, tu as fait beaucoup de gestion sur le fly, même en tant que bénévole. Fait que tu t'es fait de l'expérience au coton. Quand tu es arrivé là, tu avais déjà un bon bagage.
J'étais
prête. D'accompagner ton monde. Là.
J'étais prête à ce que je pensais. Je veux dire, peut-on être vraiment prêt? Si on le sait juste quand
toujours des surprises.
Quand on le fait. Là, ouais.
Et j'ai toujours eu plus d'idées que de capacités. Puis entre autres, en 2000, c'est peut-être avant ça, un petit peu avant, juste... À la fin des années 90, début des années 2000, une de mes amies qui est enseignante, elle est polyvalente, elle travaillait avec des personnes avec limitations intellectuelles, elle était aussi administratrice du MRAR. Et on a eu l'idée de créer une entreprise, on ne le savait pas, mais c'est une entreprise d'économie sociale. En fait, on voulait que ce soit une entreprise d'insertion professionnelle qui permettrait, entre autres, à ces jeunes du secondaire avec des limitations qui sont bien encadrées pendant qu'ils sont en milieu scolaire, mais après, ça devient difficile au niveau de l'intégration professionnelle. Donc, de leur offrir une passerelle. Et en même temps, une passerelle pour ces jeunes, donc un plateau de travail. Puis on voulait offrir aussi à des jeunes sans limitation, mais qui avaient de la difficulté à se trouver du travail, de se trouver un endroit. Mm-hmm. Donc, on a démarré le projet qui s'appelle La Découverte. Ça s'appelait La Découverte, qui a été comme une... Ça passait comme une étoile filante dans le ciel.
Oui.
Qui était un restaurant à but non lucratif. Okay. La localisation, c'était dans l'ancienne La Douceur.
OK, ouais.
Oui. Le restaurant aujourd'hui...
Maintenant, ça n'existe plus.
La Tour Eiffel. Exactement.
Ah oui.
À côté de Shell.
Oui.
Donc, notre projet, c'était au niveau de la cuisine. On créait un plateau de travail pour les jeunes avec limitation et le resto était géré par des jeunes sans limitation, mais qui veulent... développer une expérience de gestion, une expérience de service à la clientèle. Et on voulait que ce soit un café, lieu d'échange, jeu, très culturel. On avait même imaginé des spectacles. C'est-à-dire que nous l'avons fait. Nous avons tout fait ça, mais ça a duré 3 mois.
Oh, oui, shit! Okay. C'est plus qu'une étoile filante rendue là.
Pourquoi si peu de temps? C'est que dans ce temps, on avait l'impression qu'il y avait un blocus de notre milieu, du milieu de la restauration, qui est un milieu qui est très difficile, mm-hmm. où on s'est fait taxer, dans le fond, d'être subventionné, d'offrir des emplois subventionnés alors qu'eux ne pouvaient pas s'offrir ça. Mm. Et ça a été tellement fort que les partenaires financiers gouvernementaux qu'on avait trouvés, ben, ont reculé. Ils nous avaient comme... C'était comme un peu commis verbalement, mais ont reculé sur le potentiel de soutien financier.
Il y a eu du lobby,
mais au-delà de ça, c'est sûr que maintenant, je suis capable de comprendre qu'on était mal préparé. Mm-hmm. On était mal préparé, on était pressé. Tu sais...
Mais l'idée, le fondement de l'idée, est, moi, je trouve ben, ça génial.
Mon Laurier, comme ça, ils en ont fait.
Mon Laurier, il y en avait un, c'était dans l'ancienne gare, qui est ce restaurant. Il y avait un chef, un vrai chef français qui travaillait, puis tous les autres, c'était des gens de l'accueil puis de là-bas.
À Vroom, à Lassar, ils ont fait un magasin, c'est un board shop. C'est un peu le même principe. Là.
Puis tu sais, la profondeur de mon engagement à ce projet-là, puis d'y croire, était tellement fort que je me suis commise, j'ai avancé 15 000 $ je veux dire, de ma poche. Bon, c'était pas la mienne, c'était celle à papa.
On le salue.
On le salue de là où il est maintenant, mais ce qui était la même affaire, parce que pour qu'il me prête ces sous-là, moi, je me suis commise auprès de lui.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Puis de dire, fais-moi confiance dans mon projet, tu sais, auquel lui ne croyait pas une seconde écart.
Mm-hmm.
Mais en fin de compte...
Il croyait un petit peu, s'il t'a prêté.
Non, il croyait en moi.
Okay.
Ouais. Je pense que là, c'était ce qu'on... Tu sais, le love money, c'est ça.
Ouais.
Fait que moi, j'ai mis de ce love money-là dans un projet collectif à but non lucratif où j'avais zéro intérêt personnel. Où j'y croyais tellement à ce projet-là que, tu sais, je me suis mis corps et âme là-dedans, mais...
Puis 3 mois, ça passe vite.
Ça m'a jeté à terre.
Ouais.
Le non-accueil du milieu,
mm-hmm.
la façon, finalement, que certaines personnes, après même, m'ont traité, parce que des fois, il y a comme une espèce de mélange entre c'est ta faute si ça marche pas, mais... Tu sais, quand tu es un entrepreneur social, que tu le fais pas pour toi, là, mm-hmm. tu essaies de découvrir, OK, c'est quoi mon intérêt à moi là-dedans, tu sais, mm-hmm. je n'ai pas. J'ai eu des gens qui, tu sais, moi, j'étais la gestionnaire, fait que évidemment, c'est moi qui contractais, fait qu'à un moment donné, il y a même des services de, des collecteurs, là, comment qu'on appelle ça, ceux qui font de la recouvrement de dettes, mm-hmm. un en particulier qui m'avait appelé pour dire, hey, là, tu nous dois 4 000 $, puis c'est ton nom, comment ça, c'est mon nom? C'était une organisation bénévole, là. Moi, j'étais un administrateur, fait qu'une fois que j'ai eu démontré ça, c'était correct, mm-hmm. mais quand même, imagine le trouble, là, parce que, tu sais, c'est comme, t'engages quelque chose, tu commences un projet, c'est en train de monter, puis là, ça crache tout.
Oui.
Il y a des méchants dégâts à ramasser,
mm-hmm.
tu sais.
Mm-hmm.
Ça, c'est une école incroyable, je veux dire ce mot-là, incroyablement difficile.
Ouais,
tu sais. J'ai été finalement aidée de quelques personnes, dont Claude Balleux, qui était à ce moment-là le directeur du CLD Abitibi, qui était un ami et qui m'a aidée vraiment physiquement, il est venu à côté de moi, puis il fallait que je fasse des appels à l'impôt, là. Puis que j'ai dit, moi, je suis plus capable, le cœur me lève, j'étais en train de faire de vomir ma vie, tu sais. Fait que j'appelais, je disais, je vais vous passer quelqu'un, puis là, c'est lui qui parlait pour aller chercher de l'information factuelle ou dire c'était quoi les affaires. Puis, vu que j'étais à côté, bien, c'était correct, là, tu sais, ils pouvaient parler, puis après ça, je finissais la transaction, mais moi, j'étais même plus capable d'appeler le monde pour dire ce qui se passait, puis comme pour gérer la situation. Fait que c'était... C'était pas une belle période.
Non, je peux comprendre. Je trouve ça quand même dommage. Tu sais que le fondement de ça, c'était pas nécessairement de faire un restaurant. Là. Ça aurait pu être n'importe quel autre business dans le fond.
Puis au pire, c'est de former de la relève pour ces restos-là.
Ça part du principe que tu disais à ce moment-là, c'est de l'économie sociale, mais ça, c'était très peu connu et reconnu à ce moment-là, j'imagine.
Ben oui, on commençait à peine à parler du terme économie sociale. Mm-hmm. Ça venait de sortir là, avec la marche du pain et des roses. T'sais. Fait que moi, je commençais quand même à m'y intéresser parce que comme directrice du Carrefour Jeunesse Emploi, je faisais partie de tables de discussion où on commençait à jaser de ces enjeux. Mm-hmm. Puis les entreprises d'insertion, on connaissait davantage ce terme-là quand même au Québec, mais ce sont des entreprises d'économie sociale. Mm-hmm. Ça a été comme un élément marquant dans mon parcours, cette découverte, parce que dans le fond, j'ai comme compris que je suis un entrepreneur, mais je suis un entrepreneur social. Les valeurs qui sont à la base de mon entrepreneuriat, c'est le développement de ma communauté, l'insertion des jeunes et surtout le déploiement du potentiel. Parce que, tu sais, on revient au fait que mon potentiel d'artiste, de chanteuse, n'était pas mis en lumière ou moins reconnu. Mais je pense qu'à travers ma vie professionnelle, j'avais besoin de trouver un espace où j'aidais d'autres personnes, mais moi inclus, à trouver cet espace pour un peu permettre à ce potentiel-là de vivre dans quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que c'est à travers cette implication d'intégration sociale et professionnelle des jeunes là, que je l'ai trouvé. Moi, à travers l'implication du show de la motte, parce que le comité de développement de la motte est devenu le show de la motte, mais on a juste fait ça après, là. Puis... après ça, j'avais-tu d'autres implications? Je pense que ça a été ces deux gros morceaux-là, puis ma petite famille qui poussait à travers ça.
Ça vieillissait.
T'as quand même fait, toujours on parle d'économie sociale aussi et culturelle, t'as participé à la création du journal L'Indice Bohémien aussi dans les années fin 2010, autour de 2010, quoi, un petit peu plus tard?
Oui, bien, c'est-à-dire que j'étais dans le giron. J'étais pas dans les fondateurs, mais dans ceux qui ont réfléchi à la mise en place de ce journal-là, puis qui a aidé plus par la réflexion avec d'autres personnes que concrètement à créer l'organisation. J'ai été amenée à travailler avec eux de différentes façons. D'abord comme autrice, que j'ai écrit dans ce journal-là, mais aussi comme consultante un peu plus tard pour différents types de mandats, mettons.
Ça, c'est un gros mandat. Arriver avec un journal imprimé culturel dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, c'est aller chercher des annonceurs puis de vendre ça.
C'était loin d'être gagné.
Ouais, ouais.
Tu sais, avant de m'impliquer, parce que je peux pas parler d'implication avec l'Indice Bohémien, j'ai pas été assez là pour dire que j'ai eu une influence quelconque, là, à part peut-être. À un moment donné, on jasait du nom, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit « Qu'est-ce que ça te fait dire pour toi, ça, ce nom-là? » Puis moi, j'avais donné mon point de vue, puis je pense que ça l'a consolidé
la décision.
Tu sais. Mais au-delà de ça, c'est que comme artiste, puis avoir côtoyé d'autres artistes, je voyais à quel point c'était difficile d'être reconnu. Pour avoir un statut d'artiste professionnel, il faut que tu... Soit tu es publié, soit que tu t'es produit sur une scène, soit que... Bon,
couverture
médiatique. Et donc, l'Indice Bohémien, ce journal-là, venait entre autres pour soutenir une démarche de reconnaissance professionnelle des artistes.
Mm-hmm.
Parce que si on ne parle jamais d'eux, pour les bailleurs de fonds, c'est comme si tu n'existais pas.
Oui.
Fait qu'il y avait ce motif-là, tu sais.
Puis aujourd'hui, ben, c'est combien d'abonnés Instagram que tu as? Puis là, ben, là ça, on commence à parler d'une démarche.
Ben, je me demande si les, les bailleurs de fonds le reconnaissent. Là, je n'ai pas de point de vue là-dessus. Là. Je sais pas,
plus c'est les
pas
diffuseurs, plus les diffuseurs, je pense, qui se basent là-dessus là, pour et je vais-tu prendre des billets.
Oui, c'est ça. Je vais-tu aller rejoindre le monde que j'ai besoin de rejoindre pour remplir ma salle.
Pas nécessairement les financeurs, mais ouais, c'est ça.
Mais j'ai tout le temps trouvé ça difficile, ce principe-là d'être reconnu. Puis tu sais, j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu d'élitisme des fois là, dans le domaine culturel. Fait que quand tu sors un peu de nulle part, puis tu sais, t'es bon dans un domaine, là, j'ai pas d'exemple, là, mais tu sais, j'ai l'impression que des fois c'est plus difficile pour ces artistes-là d'être reconnus par ses pairs.
Mais tu parles d'élitisme, mais je pense qu'il y en a dans plein de domaines.
Oui, oui, forcément. C'est pas juste dans l'art. Il y a ça dans tout, là, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, tu en parlais un peu avec la restauration. Là, c'est un peu ça. Là. Il y a eu des restaurateurs. Ben, en tout cas, moi, c'est mon impression. Là. Mais, tu sais, il y a eu des restaurateurs qui ont eu peur parce que là, il y avait peut-être du financement du gouvernement, mais c'était pas dans le but de faire runner un restaurant. C'est dans le but d'intégrer des gens.
Ben oui, c'est ça.
Puis, tu sais, en même temps, tout ça est... se justifie. Tu sais, moi, aujourd'hui, je drive une entreprise privée. C'est sûr que quand je vois des personnes qui font des services conseils à travers une organisation à but non lucratif, puis qui sont financées, puis qui deviennent mes compétiteurs, ça fait merde, hein? Tu sais, je suis un peu jalouse, on va dire ça de
même. Ben oui, je comprends.
Je suis un peu frustrée. Fait que ça, je peux comprendre comment les restaurateurs pouvaient se sentir quand ils ont vu apparaître un restaurant à but non lucratif avec des subventions, même si ces subventions-là, ils auraient pu les avoir parce qu'elles étaient destinées à des personnes avec limitation. C'est juste qu'ils n'avaient pas fait le choix d'aller chercher ces subventions-là. Mm-hmm. Mais c'est facile.
Ils ne faisaient pas le choix d'engager ces personnes-là.
Bon, c'est ça. Mais donc, c'est facile de blâmer l'autre qui semble avoir plus, tu sais. Mais en même temps, moi, je suis une vendue de l'entrepreneuriat collectif, de l'entrepreneuriat social. C'est un modèle que je trouve hyper pertinent pour développer des entreprises qui viennent en réponse à des problématiques sociales, par exemple, ou à un enjeu de développement ou d'intégration de la communauté ou de développement social. Ça prend... On est dans un espace d'économie plurielle. Ça nous prend des entreprises privées, mais ça nous prend des OBNL marchands. Mm-hmm. Et ça nous prend des organismes communautaires qui vont venir répondre à des besoins, encore des problématiques.
Que le privé ne veut pas faire, de toute façon.
Et qu'il ne peut pas faire.
Oui, c'est ça. C'est
chacun sa place là-dedans. Mais je pense qu'il y a un regard, il y a une trop grosse loupe, trop grosse importance qui est mise à l'entrepreneuriat privé ou... C'est le capital qui est mis en avant versus les autres formes d'entrepreneuriat qui vont mettre en lumière l'implication des gens dans la résolution de problèmes ou l'implication de la communauté.
Un des plus bels exemples, Amos, d'économie sociale, c'est certainement la petite boutique.
C'est un exemple.
Que toute la communauté participe parce qu'ils amènent leur linge, leurs vêtements, ceux qui ne portent plus, qui n'apprécient plus, qui redonnent à quelqu'un, puis de plus en plus, là, maintenant, il y a la dimension environnementale qui rentre dans le truc. C'est que ça, c'est très, très complet là, comme entreprise. T'sais. Mais l'aubainerie, il n'ira pas chialer. Ben, voyons, ils ont du linge gratis, puis ils le revendent, ils font 100% de profit. Moi, je n'ai pas cette chance-là.
Le Refuge Pajot, qui est une entreprise d'économie sociale,
qui redonne aux animaux.
La Coop IGA, qui est une entreprise d'économie sociale sous la formule de coopérative, et même Desjardins, qui est une entreprise d'économie sociale à plus grande échelle.
Ça a évolué, mais
à plus grande échelle, c'est sûr que, tu sais, bon, là, on pourrait parler d'institutionnalisation, mais on peut parler des centres de petite enfance, qui sont des entreprises d'économie sociale. Ouais. Fait que dans le fond, ces entreprises-là...
Étatisées en plus, là, c'est ça.
Pardon?
Étatisées en plus, là, les CPE.
C'est ça. Et là, il y a toujours le danger de l'institutionnalisation des entreprises d'économie sociale, mais là, c'est un trop gros débat rentré là. Mais ça pour dire que...
Non, on a le temps.
Cette économie plurielle dans laquelle on est, il faut que chaque entrepreneur sente qu'il a une place à jouer là-dedans. Et au-delà du capitalisme qui peut être un des motifs pour être en affaires. Mais tu sais, moi, ça fait 18 ans que je suis en affaires, là. Pensez-vous, non, je vais vous le dire, je pense, non, le faire de l'argent, ça ne fait pas partie
T'as-tu un condo à Montréal?
J'ai pas de condo à Montréal.
Pas de condo à Montréal? Ah.
J'ai un condo au Lac-Beauchamp.
Je pensais que j'étais sur le bord de me partir une compagnie de consultants. Là.
Mais, tu sais, en fin de compte, il y a plein... Souvent, je me suis posé la question, si c'est pas le capital qui fait que je suis en affaires, c'est quoi? Pourquoi je suis en affaires? T'sais? Puis, finalement, j'ai pas encore tous les mots, mais... Dernièrement, ce que je me disais, c'est que pour moi, être en affaires, c'était une façon d'être autonome parce que j'ai besoin de créer, donc d'avoir un espace où j'ai 100% contrôle de ma création. Je vais vous dire que ce n'est pas toujours vrai, là. Bon, que j'ai l'illusion que j'ai 100% contrôle de mon espace de création, que je vais pouvoir prendre des défis qui vont mettre en valeur mon potentiel. Donc, c'est un espace où je peux expérimenter, que je peux apprendre, que je peux contribuer à la hauteur de ce qu'est Valérie Jacob. Puis Valérie Jacob, dans les emplois que j'avais fait avant, avait, à un moment donné, elle n'avait plus l'espace qu'il fallait. Oui, pendant un certain temps, puis à un moment donné, oh, l'organisation ne permet plus que je sois exactement qui je suis parce qu'on dirait que je déborde tout le temps. Et là, ADN, c'est arrivé à un moment donné que j'avais l'impression qu'ADN, bon, mais là, on dirait que je ne peux plus être tout ce que je suis dans ADN. Je me suis rappelé que c'était mon entreprise.
projet.
J'avais le droit de faire évoluer mon entreprise pour qu'elle embrasse plus large et que si moi, je prends de l'expansion dans ma vie, dans mon être, que mon entreprise puisse suivre. C'est pas toujours évident parce qu'on est deux associés et plusieurs employés. Puis ça, c'est l'autre affaire étrange qui se passe, là, que j'avais pas perçue, c'est que quand on démarre une entreprise... À un moment donné, cette entreprise-là développe sa propre personnalité avec laquelle il faut conjuguer. Fait que l'entreprise, c'est comme si elle devient une personne à part entière. Pas pour rien que c'est une personne morale.
Ouais.
Et il faut que je fasse affaire avec cette personnalité puis qu'il y a ses besoins. Elle a ses besoins, elle a ses limites, elle a ses exigences. Puis là, mettons, je peux faire un lien. Par exemple, on est connu pour faire tel type de service, même si moi, je ne veux plus faire ce service-là. Là. Bien, je me fais encore appeler pour ce service-là. Parce qu'il y a une notoriété qui s'est développée autour de telle ou telle chose.
Ouais, c'est sûr que si demain matin, ADN allait déneiger des toits, ça serait bizarre un peu. Là.
Ça serait bizarre.
Ouais. Ben, je serais quand même curieux de voir Claude aller déneiger des toits.
Ça y tente.
Peux-tu vous dire que pas partout? Chez nous, il y a quelqu'un qui le fait.
Ça, c'est ça. Ça s'appelle Guillaume.
Non, Guillaume a mal au dos.
Ouais, ouais, c'est ça.
Pauvre Guillaume.
Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est important de garder l'image puis de comprendre c'est quoi la bébelle qui est entre les mains puis de bien la polir puis pas de la scraper au final. C'est ça,
oui, mais puis aussi que, mais en fin de compte, cette organisation-là qui a des besoins propres, mais là, je pourrais dire, ah ben là, elle a des besoins propres, moi, me limiter à ça. Ou dire, non, je suis le créateur. Je suis le créateur et je peux faire évoluer mon entreprise pour qu'elle embrasse ce que je suis en train de devenir comme humain. Puis moi, c'est aussi ça qui est, tu sais, on revient au potentiel. Qu'est-ce que je suis venue faire sur la Terre, moi? C'est quoi le potentiel ou la petite flamme là, qui me fait bouger dans la vie? Puis c'est quoi qui fait que j'ai comme un sens, que ma contribution a du sens? Puis si j'ai pas ça, si j'ai pas l'impression que ce que je fais a du sens, ben je fais comme plein de monde. Là, je me roule en boule puis je braille.
Fait qu'on va voir une nouvelle branche d'ADN avec le chant?
Ben, il y a une nouvelle branche de Valérie avec le chant. Est-ce que ça intégrera ADN un jour? Je ne le sais pas. Okay. Ce qui est en train de se passer, par contre, dans ADN, c'est un volet de développement et d'élévation. Tu sais, ADN organisation, notre slogan, c'est de l'intention à l'évolution. Cette entreprise-là, pourquoi ce nom-là? C'est que moi, j'ai la croyance fondamentale que notre ADN... elle peut être reprogrammée. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui parlent d'épigénétique. On entend pas mal parler. Quand j'ai démarré ADN, c'était pas encore un discours qui était très ouvert ou connu. Mais moi, j'ai cette intuition-là depuis que j'ai vécu avec Margot, dans le fond, et que j'ai constaté ce que l'effet d'une personne extérieure à ma lignée pouvait avoir d'influence sur moi et sur ma lignée. Fait que si l'environnement peut avoir une influence sur comment moi je me développe puis comment mes enfants automatiquement se développent, ou ce qu'ils ont acquis comme talent, ça veut dire que c'est possible partout, tu sais.
Ouais, ouais.
Et vu que moi, je trippe sur l'humain, mais aussi sur les organisations, sur les dynamiques humaines, ben, je me suis dit, ben non, les organisations, c'est la même affaire. Les organisations, ont leur ADN, puis elles peuvent se transformer avec l'intention, avec une intervention ciblée, tu sais. Fait que c'est de là que part le nom ADN organisation. Mais sauf, puis, tu sais, tantôt, je vous disais, ben mon entreprise, je peux la changer. À un moment donné, je m'en souvenais presque plus. J'étais presque plus consciente que mon entreprise ADN organisation, je pouvais, par une intention claire, reprogrammer son ADN et lui insuffler une nouvelle personnalité, une nouvelle culture qui était plus, qui correspondait davantage à ce que je suis en train de devenir comme humain.
Puis tes besoins à toi, puis les besoins des autres aussi qui évoluent.
Exact.
Donc, de répondre à leurs besoins.
Puis tu sais, quand on... Tu sais, moi, mon lieu de travail, puis c'est ça que j'essaie de créer, ou c'est avec l'équipe. J'ai une équipe extraordinaire que je changerais pour rien.
Qui est une partie de ta famille aussi. J'imagine que ça amène une dynamique différente.
Bien, il y a mon chum, là.
Oui, c'est ça.
D'une part. Il y a ma fille qui est avec nous, Chani Victoria, qui avait toujours juré qu'elle ne travaillerait pas avec sa mère.
Oui, OK.
Qu'elle ne ferait jamais...
Les temps changent.
Les temps changent.
Positivement.
Positivement, j'espère. J'imagine. Est-ce qu'elle sera là encore dans 10 ans? Je ne le sais pas. Elle a son propre chemin. Pour l'instant, elle est avec nous. Et je dois dire que j'adore ça. Elle est extraordinaire, elle est pertinente, elle est cultivée. Chani vient de terminer son MBA de l'Université Laval. Elle vient d'être acceptée comme jeune au Collège des administrateurs pour un certificat en gouvernance des administrateurs de société, gratuitement. Donc, elle a déposé sa candidature. C'était réservé à 34 personnes à travers le Québec. Oui, moi, je suis... très
fière. C'est parfait.
C'est un volet de moi que je n'ai pas parlé, la gouvernance. C'est un thème qui m'est très cher, sur lequel, d'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en gestion des organisations sur la gouvernance des entreprises d'économie sociale, justement. Mais donc, aider les organismes associatifs, que ce soit un OBNL ou une coopérative, à s'organiser puis à comprendre c'est quoi les dynamiques humaines liés à leur rôle et responsabilité, puis à leur vision de gestion, moi, ça me fait triper. C'est un des éléments qui me fait triper dans
les décisions,
dans ma job.
Puis les ordres que tu vas donner à tes employés, ça a un impact sur l'humain, là, c'est ça?
Ça a un impact sur l'humain, puis ça a un impact sur l'efficacité, la performance de l'organisation, puis sa pérennité à travers le temps.
Puis en même temps aussi, avec les OBNL, tu sais, souvent, tu as beaucoup de main-d'œuvre bénévole. Fait que c'est une autre façon aussi d'approcher les gens, parce que, tu sais, les gens qui sont payés, ils ont un attachement. Les gens bénévoles pourraient juste dire, hey, ce gars-là, il me gosse, je vais juste m'en aller, tu sais, je vais aller donner du temps ailleurs. Fait que c'est une autre approche aussi, là.
Exact.
Ouais, quand tu as un OSBL. Tu peux pas être une marde. Tu peux pas être un mangeur de marde, je pense. Ça peut pas durer longtemps.
Mais, en fait, quand t'es une entreprise privée, non plus.
Non plus, non, forcément.
C'est juste que pendant longtemps, le capital était tellement fort, puis l'offre des employés, mettons, il y avait d'offres que les entreprises pouvaient peut-être se permettre d'être moins à l'écoute, moins conciliant. On est dans une transformation majeure du monde du travail. La pénurie de main-d'œuvre est réelle, puis elle est là pour rester encore une bonne dizaine d'années. C'est clair que les organisations doivent s'adapter, puis doivent arriver à une approche plus responsable dans tout ce que ça peut vouloir dire, là, de leur management puis de leur vie corporative, tu sais. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je racontais à mes employés, puis parce que des fois, je dis des affaires que je trouve du sens après. Mais moi, je les remercie. Eux autres, ils font une contribution. C'est comme s'ils me donnent un morceau de vie. Quand ils viennent travailler pour moi, là, chaque jour, c'est un morceau de leur vie qu'ils me donnent. Ils pourraient choisir de le donner ailleurs. Moi, je me sens honorée qu'ils choisissent de contribuer chez ADN Organisation, mais j'ai une responsabilité. Il faut que que j'honore ce don-là. Comment je le fais? Bien, évidemment, c'est par une rémunération, un salaire, mais là, moi, je vais plus loin dans la rémunération globale. On trouve d'autres façons. Puis c'est dans la qualité de l'espace de création. Tu sais, chez nous, moi, j'appelle ça un espace de création. Bon, c'est sûr que c'est mon entreprise. C'est moi qui vis avec les défis, avec les opportunités, avec les bons coups, avec les moins bons coups.
Avec les risques.
Avec les risques. Donc, quelque part, si y a un profit, ben je vais me verser un boni à moi peut-être avant. Tu sais. Parce que ça peut arriver, par exemple, que dans des situations plus difficiles, ben je dois arrêter de me payer pour si je veux garder mes employés. On est encore une petite business. Sur les 18 ans, c'est arrivé que j'ai dû arrêter de me payer pour pouvoir payer mes employés. Tu sais. Je le souhaite. Des fois, je me dis, ben pourquoi je continue d'être en affaires si je ne suis pas capable de me payer? Tu sais. C'est comme, je ne vivrai pas de
d'amour pain, et d'eau fraîche.
D'amour et d'eau fraîche.
Et Claude Ballet a beaucoup d'amour et beaucoup d'eau fraîche à donner. C'est peut-être pas assez.
Oui,
il habite à côté d'un lac.
Ouais, à long terme, ça ferait peut-être pas long feu quand même. Il y a un choix qu'on fait. Parce que dans notre vécu d'entrepreneur, il y a eu des ups, il y a eu des downs. Il y a eu des périodes où est-ce qu'un des deux a dû aller travailler. On n'est plus là depuis plusieurs années. Tant mieux, là, mais il y a eu un moment où est-ce que...
Claude a travaillé un bout à Beijing, entre
autres. Il est allé travailler à Matagami, tu sais. Moi, à cette époque-là, je pensais qu'on fermait la shop, tu sais. Je m'étais dit, je finis les mandats en cours, puis je mets la clé sur la porte, je retourne travailler.
On retourne au tourisme.
Non, là, ça, c'était fini, mais je vais faire d'autres choses. Puis finalement, quand on change quelque chose dans le système, tout change. Et là, les offres sont arrivées. J'ai rien eu à faire que j'ai eu des propositions qui sont arrivées, puis ça... complètement changé, transfiguré ce qu'ADN offrait comme service, puis notre trajectoire, en fin de compte. Fait qu'on est sur cette ère d'aller là depuis 2013. Fait
des fois, il faut ces petits défis-là aussi pour se poser la question, je suis dans la bonne voie, je vais-tu à la bonne place?
Est-ce que j'y crois assez à mon rêve? Puis, mais tu sais, il y a quand même une partie de moi qui me dit, mettons là, que j'aurais mis autant d'efforts à ma carrière de chanteuse ou d'artiste que j'en ai mis à créer ma business. Moi, je suis convaincue que ça aurait marché.
Peut-être tu feras en direct de l'univers tous les samedis.
Bien, certain. Sauf que, bon, j'avais...
La nouvelle Céline Dion.
Non, c'était pas mon genre, mais bon. Mais cela dit, ça m'a quand même poussé. Bon, il y a à quel point les discours de nos parents sont forts puis peuvent nous forger. Que je m'étais jamais autorisée, donc, à être une artiste. Mais à un moment donné, ça a quand même fait, ben, je vais toujours bien l'essayer un peu. Fait que là, j'ai créé avec Céline O'Rourke et Isabelle Leduc, le groupe Musique et moi. On a fait notre album, on a fait des spectacles, on a vécu cette expérience-là pas à fond, pas assez à fond à mon goût, mais quand même de façon assez...
Un groupe de musique, ça demande énormément de temps aussi. Là.
Oui, puis bon, après, c'est une question de vision. Là, moi, je serais partie en tournée en Europe.
Ah oui?
Ouais.
Mais d'autres n'avaient pas nécessairement les mêmes besoins ou la même vision. T'sais. Fait que là, c'est OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je change de groupe puis je le fais, mettons?
Puis ce projet-là, c'était le marché, c'était l'Europe, ça, tu penses? Ça aurait pu être quelque chose?
Ouais, ça aurait pu.
Ouais.
Ouais.
C'est cool, ça.
Mais
je pense que c'est ça, hein, toutes les jeunes bandes se posent cette question-là. Puis tu sais, souvent, c'est bon, ils se réunissent parce qu'ils aiment la musique, mais il y en a qui sont vraiment plus impliqués que d'autres. Là, puis qui arrivent à des points où on pourrait percer, on pourrait faire des concours, on pourrait aller jouer à Montréal, on pourrait aller jouer en Europe. Ah oui, mais tu sais, j'ai pas l'intérêt de le faire.
Je fais du 7-7, ça mine, fait que ça marche pas.
Ouais, c'est ça.
Ou encore...
c'est juste le temps, je change ton projet tout le temps. Ouais,
j'ai un bébé.
J'ai une entreprise. Ouais, dans mon cas, j'avais aussi une entreprise. Puis là, c'était une question de choix. T'sais. Puis, bon, moi, il n'y a pas nécessairement de mauvais choix, mais il y a des choix qui induisent une trajectoire ou une autre. Et clairement, les choix que j'ai faits m'ont amené dans une trajectoire plus d'accompagnement, d'organisation que d'expression de mon art, mettons. Est-ce que j'aurai l'occasion plus tard dans ma vie de m'exprimer en écrivant des livres ou en faisant encore de la musique ou de la scène? J'espère que oui. Pour l'instant, c'est pas ça qui est là ou qui m'interpelle. Oui, j'aime chanter, puis si j'ai l'occasion de le faire, comme je vais saisir l'occasion. Mais en même temps, ma vision d'entrepreneur ou ce que je suis en train de créer avec ADN puis l'équipe actuelle me meut aussi, tu sais, puis me stimule, fait que j'ai envie de contribuer à ça en ce moment.
Merci beaucoup, Valérie Jacob. Ça complète tellement bien la boucle, ça, je pense.
Ben oui.
Je pense qu'on peut...
C'est un plaisir.
Merci beaucoup.
Écoutez ça, réécoutez-le 2-3 fois. Je pense que c'est super intéressant.
Il y a beaucoup d'apprentissage. Ouais. Quasiment, il faudra te payer pour le coaching d'une heure, je pense.
Il y avait 3 gars bien silencieux dans ce podcast-là. Il y avait beaucoup d'écoute. Ah, c'est bon signe.
C'est notre discours qu'on dit tout le temps. Moins que nos trois, on parle, plus c'est intéressant.
Si on veut connaître un peu plus ADN, vous avez un site web, vous avez Instagram, Facebook.
Pas d'Instagram. C'est-à-dire plus d'Instagram.
Plus d'Instagram.
On a constaté que notre clientèle n'est pas là, fait qu'on vient de fermer le compte.
Parfait.
Mais Facebook...
Chani devait être déçue.
Non, pas du tout. Facebook, ADN, Facebook, notre site web. Je dirais que le site web en dit plus que notre Facebook. Mm-hmm. Puis la meilleure façon de connaître ADN, c'est de jaser avec nous autres, de nous appeler puis de voir comment on peut contribuer ou co-construire quelque chose avec vous autres, avec votre organisation.
Les projets artistiques, Musique et moi, on peut suivre ça aussi quelque part?
Musique et moi, c'est fini depuis quelques années. L'album est quand même disponible sur Bandcamp.
Parfait.
Donc, Musique, M-U-S-I-K, trait d'union, et moi, E-M-O-I.
C'est avec Céline O'Rourke et Isabelle Leduc, qui est violoniste.
Violoniste multi-instrumentiste. Isabelle fait tous les instruments sauf le piano sur l'album.
Okay. Parfait.
Et les voix. Une très belle voix.
Isabelle qui avait participé aussi à
ce sera une cathédrale la semaine dernière.
Donc, une violoniste de grand talent. Puis, c'est pas mal ça, parfois. Y a-tu d'autres? Les livres, ben là, ça, on fouille une boîte dans ta maison.
Non, ben, il y a un aspect dont j'ai pas parlé qui est la tarologue, parce que je suis tarologue, je suis fait des soins énergétiques, mais bon,
c'est vrai?
On reparlera de ça une autre fois.
Ben oui. Ça aurait pu nous tirer aux cartes, puis tu n'en as pas parlé.
C'est ça.
Mais on fera une autre de podcast.
On fera notre
un spécial tarot.
Ouais, c'est ça.
Un spécial tarot, on va se faire tirer aux cartes.
Ce serait pas pire, ça.
Avec plaisir.
Bon, right, on va t'inviter. Merci beaucoup, Valérie Jacob.
Avec plaisir.